Bonjour, mes frères. Je vais entrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui et commencer par vous brosser un petit tableau. Un tableau qui vous aidera peut-être à comprendre où nous voulons en venir, mais qui vous semblera aussi très familier à tous, car je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience. Je ne vous demanderai pas de lever la main, car tout le monde lèverait la main, à l'exception de quelques-uns. Et vous vous interrogeriez sur leur santé mentale, mais la question serait, combien d'entre vous utilisent un GPS pour se repérer? Là encore, tout le monde lèverait la main et vous regarderiez les gens d'un air étrange. Non, j'utilise toujours une carte. Je sors ma carte au hasard. Oui, c'est vrai. Mais la plupart le font, et au fil des ans. Cela s'est considérablement amélioré, car je me souviens que lorsque nous l'avons acheté, nous avions cette Mazda CX Online, la première voiture que ma femme et moi avons louée. Nous n'avions pas encore d'enfants, nous travaillions tous les deux, nous avons donc acheté exactement ce que nous voulions et elle était équipée d'un système de navigation. Et c'était il y a longtemps. Nous sommes mariés depuis près de 20 ans. Et c'était notre première location. C'était donc peut-être en 2008, je dirais, peut-être en 2009. Et le GPS de cette voiture, pour une raison quelconque, détestait Nashville. Alors, quand nous avons pris la route pour nous rendre à la fête, il nous a fait faire un détour par des routes secondaires. Ce qui ne m'a pas vraiment donné confiance en ce GPS, je suis sûr que vous avez tous déjà utilisé cet appareil dans votre voiture, qu'il soit intégré ou connecté à votre téléphone, qui vous indique où aller, vous donne des indications et vous aide à atteindre la destination que vous cherchez. Mais parfois, vous le regardez et vous vous dites, je ne pense pas que ce soit la bonne direction. Non. Ce n'est pas le meilleur chemin pour y aller. Je pense que je prendrai un autre itinéraire. Et quel que soit le cas, surtout maintenant, nous arrivons à un point où nous nous disons, ah, vous savez quoi, je connais un chemin plus rapide que je peux emprunter. Et vous empruntez ce chemin plus rapide, puis vous vous rendez compte qu'il y a eu un accident. Et puis le GPS, avec sa politesse habituelle, ne dit même plus cela, mais avant, il disait, recalcule en cours. Maintenant, il se contente d'émettre un bip, car je pense que les gens ne voulaient pas entendre le message recalcule en cours qui pouvait être perçu comme insultant. Mais le système de navigation est là pour vous aider à trouver la direction que vous essayez de prendre. Et pour vous assurer que vous prenez le bon virage et évitez les obstacles que vous ne comprenez peut-être pas ou dont vous ne réalisez même pas l'existence. Il s'agit vraiment d'un outil destiné à vous aider à faire ce que vous voulez faire et à éviter les obstacles dont vous ne connaissez peut-être pas l'existence. Sur le plan spirituel, nous avons quelque chose de très, très similaire, et nous demandons souvent à Dieu de nous aider à trouver la bonne voie, à trouver le bon chemin, à obtenir les bons conseils sur quelque chose qui nous aidera à atteindre notre destination, puis à éviter, si possible, les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. Chaque fois que ma famille part en voyage, quelle que soit la distance, nous prions toujours avant de partir et nous disons, Dieu, protège-nous et veille sur nous, en particulier contre les choses que nous ne voyons pas. Nous recherchons des conseils, des directives. Mais même avec Dieu ou des conseils, qu'ils viennent de son gouvernement ou de la Bible, nous faisons parfois la même chose qu'avec notre système de navigation, n'est-ce pas? Nous l'écoutons, puis nous pensons que nous savons mieux ou que nous avons déjà un plan qui prévaut sur celui-ci. Le problème n'est pas que Dieu ne nous guide pas. Le problème est parfois que nous ne suivons pas toujours ses conseils, ou que nous ne les recherchons pas. Et cela se résume généralement à une caractéristique fondamentale de notre croissance spirituelle. Notre maturité spirituelle, ou plutôt, puisque les deux sont liés, notre maturité émotionnelle. Ceux qui sont plus immatures spirituellement et émotionnellement ont tendance à répéter un cycle où ils disent vouloir des conseils, ils peuvent obtenir des conseils, où ils peuvent se fier à leur propre jugement et décider ensuite de mettre en œuvre ce qu'ils voulaient faire au départ. Comme on le dit souvent, les gens font ce qu'ils veulent faire et ne font pas ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais plus nous sommes mûrs spirituellement, plus nous sommes enclins à demander conseil, à écouter ce conseil, puis à l'appliquer dans notre vie. À bien des égards, cela nous aide à éviter les accidents ou tout ce qui pourrait nous empêcher de progresser dans notre cheminement chrétien vers la famille et le royaume de Dieu. Nous allons donc explorer la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons voir que la maturité émotionnelle et l'humilité permettent au peuple de Dieu, à nous tous, de recevoir des conseils, d'agir fidèlement en fonction de ceci, et d'être ensuite capable de marcher en sécurité sous la direction de notre Créateur, selon la manière qu'il a établie pour nous. Voici donc quelques points à retenir au fur et à mesure que nous avançons. C'est un sujet très vaste, et lorsque j'ai commencé à rassembler des informations à ce sujet, j'ai réalisé que je pourrais probablement faire deux sermons là-dessus, mais j'ai essayé de me concentrer sur les points les plus importants car, mes frères, recevoir des conseils, les rechercher, puis les appliquer déterminera si vous resterez dans ce mode de vie ou si vous commencerez à vous appuyer sur vous-même, sur votre propre esprit. Vous pouvez penser à des passages des Écritures qui vous viennent à l'esprit et qui expliquent pourquoi c'est un problème, et nous les aborderons, mais c'est la différence entre entrer dans le royaume de Dieu et s'éloigner complètement. Donc, premièrement, Dieu a conçu les conseils comme une protection. Si nous utilisons l'analogie du GPS ou de l'équipement ou de votre voiture qui vous guide, nous venons de louer un nouveau véhicule, et j'apprécie toujours les nouvelles locations, car, premièrement, vous avez cette odeur de voiture neuve, ce qui est agréable. Ce que j'apprécie vraiment, c'est la nouvelle technologie dont chaque véhicule est équipé, car elle est plus récente. Celle-ci me permet de toucher à peine le volant pour que la voiture roule. Nous avons prévu de rendre visite à ma mère pour Thanksgiving, ce qui me permettra de la tester. C'est une technologie intéressante, mais ce n'est pas tout. Elle surveille les voitures autour de vous et les personnes qui traversent, et ce véhicule est équipé de nombreux dispositifs de sécurité qui nous aident à ne pas commettre d'erreurs ou, si nous en commettons une, à la corriger avant qu'elle ne devienne plus grave. C'est exactement ce que fait le conseil. Dieu n'a jamais voulu que vous et moi prenions des décisions de manière isolée. Nous devrions toujours être capables de les encadrer bibliquement, et dans certains cas, elles sont trop physiques, trop spécifiques. La couleur de votre voiture n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la Bible. Il existe des principes, la modération et toutes sortes d'autres applications, mais il n'est pas bon de dire « tu auras une voiture grise ou tu n'auras pas de voiture rose fluo ». Si vous optez pour cette dernière, revenez à certains des principes. Mais les décisions plus importantes, les décisions spirituelles, les décisions vraiment importantes dans la vie, qui sont déterminées par Dieu, doivent faire partie d'une situation de conseil. Cela peut provenir de la Bible, de la parole de Dieu. Vous examinez la parole de Dieu et vous approfondissez un sujet si la Bible le traite, ou le plus souvent, il s'agira d'un conseil avec un ministre, et parfois même avec d'autres frères, selon le sujet. Il y a généralement plusieurs niveaux de gravité qui élèvent certaines des choses les plus mineures, les plus petites. Que voudrait Dieu que je fasse à ce sujet? Nous en parlerons au fur et à mesure que nous avancerons dans le message. Vous pouvez simplement vous pencher sur la parole de Dieu, où j'essaie de gérer quelqu'un qui est impulsif, où je me mets parfois en colère. Comment gérer cela? Vous pouvez vous pencher sur la parole de Dieu et voir très clairement ce qu'il faut faire. Vous n'y parvenez peut-être pas, alors vous vous dites, vous savez quoi, je dois passer à la vitesse supérieure. Je vais en parler à quelqu'un. Peut-être à des amis ou à des collègues, et vous dites, je lutte contre la colère. Avez-vous déjà? Et ils vous répondent en vous donnant des conseils qu'ils suivent eux-mêmes. Vous recevez des conseils, vous prenez ces choses et vous les appliquez, mais vous continuez à lutter contre la colère. Alors, à un certain moment, vous dites, bon, je n'arrive pas à surmonter cela. J'ai besoin de parler à un pasteur et de connaître la pensée de Dieu, car c'est ce que nous faisons dans le cadre de notre ministère. Notre but n'est pas d'apporter un raisonnement ou une logique humaine. Nous apportons certes la raison et la logique, mais notre travail consiste en fin de compte à vous faire connaître la pensée de Dieu sur un sujet donné à travers son gouvernement, son inspiration, ce qu'il donne à son ministère, le discernement et la connaissance compréhensive, tous ces éléments qui fonctionnent ensemble. Il s'agit d'utiliser son gouvernement pour pouvoir arriver à une conclusion, la bonne conclusion, dans pratiquement tous les domaines. Cela nous renforce, nous protège et nous stabilise. Cela nous aide à ne pas dériver trop à gauche ou à droite, et avec le temps, on s'améliore. C'est le cas pour nous tous, et nous avons moins besoin de conseils, mais il y aura des moments où nous en aurons besoin. Il y aura des moments importants dans notre vie où nous en aurons besoin. Dieu a conçu les conseils pour nous aider à ne pas nous écarter du chemin, à ne pas tomber dans le fossé. Encore une fois, c'est une protection. Revenons au chapitre 11 du livre des Proverbes. Il contient beaucoup de versets très simples, et là encore, vous pouvez les étudier après le message et approfondir votre réflexion, car j'ai dû supprimer de nombreux passages pour respecter la durée du sermon. Chapitre 11 du livre des Proverbes. Chapitre 11. Un seul verset ici, le verset 14. 11. 14. Son conseil, le peuple tombe. C'est assez clair et simple, n'est-ce pas? La deuxième moitié du verset, mais dans la multitude des conseillers, conseillers, au pluriel, il y a la sécurité. Il y a donc la sécurité. C'est clair. Son conseil, nous échouons. Pouvez-vous décider quelle litière pour chat vous devriez avoir pour votre maison ou quelle pomme vous devriez acheter à l'épicerie? Oui. Ce n'est pas une question qui nécessite un conseil. Si vous êtes vraiment curieux au sujet des pommes, vous pouvez peut-être faire des recherches et trouver la réponse, mais ce n'est pas une décision spirituelle. Chaque fois qu'une question a une implication spirituelle, c'est là que nous nous disons, vous savez quoi? Cela me dépasse. Je pense savoir quoi faire, mais j'ai besoin d'une multitude de conseillers. Donc, si vous vous tournez vers Dieu et étudiez la Bible, vous avez un conseiller, au pluriel. Le verset est au pluriel. Vous avez un conseiller si vous vous tournez vers Dieu pour une question. Vous avez des conseillers lorsque vous vous adressez à Dieu et que vous vous adressez à un ministre. Vous accomplissez alors ce verset. Le mot « conseil » signifie ici « conseiller », proposer ou planifier. C'est ce qu'est le conseil. Il s'agit simplement d'obtenir le point de vue extérieur de quelqu'un lorsque vous essayez de prendre une décision. Nous construisons des choses dans les services de sites web, dans l'informatique ou dans divers départements avec lesquels je travaille. Mon domaine d'expertise est l'architecture réseau. Je dirais expérience maintenant, car cela fait plus de 20 ans. Mais l'architecture réseau signifie que vous concevez un réseau, un système informatique, de manière à ce qu'il fonctionne correctement. Vous passez beaucoup de temps à l'étudier, à faire des recherches, à déterminer exactement ce que vous voulez qu'il fasse avant de mettre quoi que ce soit sur papier et de commencer à déterminer et à concevoir toute cette planification. Vous travaillez avec des ingénieurs. Vous réfléchissez à tout. Je me souviens d'un système sur lequel j'ai travaillé il y a des années, qui concernait la manière dont les pharmacies traitaient les demandes de remboursement, c'est-à-dire essentiellement la manière dont elles communiquaient avec les compagnies d'assurance. C'était l'un des premiers systèmes à passer par Internet. Il a fallu près d'un an de planification avant de passer à la phase physique ou même de tester le système dans une pharmacie. Cela a évidemment nécessité beaucoup de conseils et de planification. C'est ce que signifie le mot « conseil ». Le mot « conseil » peut donner l'impression que c'est plus important que ce qu'il signifie réellement, mais il s'agit en fait de planifier, de planifier. Mais encore une fois, c'est une protection contre l'échec, car sans conseil, sans aucun conseil, les gens échouent. Passons au chapitre 18 de l'Exode. Exode 18. C'est un passage un peu plus long, Exode 18. Nous commencerons au verset 13. Exode 18, 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple resta debout autour de Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Vous connaissez ce récit. Et quand le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, il dit « Réveille-toi, mon fils, c'est essentiellement ce qu'il a dit. Que fais-tu au peuple? Pourquoi restes-tu assis seul ?» Verset 17. Et le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras, toi et ce peuple qui est avec toi, car cette tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. C'est trop gros, Moïse. Tu dois y réfléchir. Que reçoit-il? Il reçoit des conseils. Il reçoit des recommandations. » Verset 19. Écoute maintenant ma voix, je te donnerai un conseil. Il prépare un peu le terrain, jeune homme, Moïse. Moïse n'était pas un jeune homme. Mais si c'est votre beau-père ou votre père, ils peuvent vous appeler jeune homme jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Il dit donc, je vais te donner un conseil, et Dieu sera avec toi. Verset 21. Tu choisiras parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, qui haïssent la cupidité, et tu les mettras à leur tête. Au verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse a entendu quelque chose, a suivi le conseil de son père, son beau-père, et l'a appliqué. Il a dit, « Tu as raison, car Moïse était concentré, n'est-ce pas ? Il était dévoué, zélé. Il allait faire ce qui devait être fait. Tout le peuple avait besoin de conseils. Il avait besoin d'avis. Il avait besoin d'une direction. Il avait besoin d'un plan. Moïse était donc. Vous pouvez imaginer qu'il y avait des millions de personnes, et Moïse était assis là, sur une chaise, ou peut-être debout, probablement. Disons qu'il était assis. Je ne peux pas imaginer. Et ils venaient les uns après les autres. Et son beau-père a dit, cela n'a pas beaucoup de sens, car le peuple avait aussi besoin de conseils. Jéthro l'a vu et a donné un conseil divin, un objectif divin. Cela venait de Dieu. Le verset dit littéralement, « Et Dieu sera avec toi. » Moïse était un homme doux et humble. Alors, qu'a-t-il fait? Il a écouté et il a agi. Il n'a pas dit, « Je suis l'élu de Dieu. » Comment oses-tu me dire quoi faire? Non, il a dit, c'était un bon conseil. Tu as raison. Je dois changer cela. Et il a agi. Il n'a pas fait preuve d'orgueil. Et le résultat aurait apporté la paix, aurait apporté la stabilité. Les questions des gens auraient trouvé une réponse plus rapidement. Moïse n'aurait pas été aussi fatigué. Ils ont commencé à créer la structure de Dieu dans ce qu'il faisait. Tout cela a été fait parce qu'il a écouté les conseils. Continuons ici, point numéro 2. Le point numéro 1 était que Dieu a conçu les conseils comme une protection pour nous préserver des problèmes. C'est une protection. Cela nous aide à voir les choses que nous devrions voir, afin que nous puissions les anticiper. Deuxième point. Il est dangereux de se fier à soi-même. Deuxième point. Il est dangereux de se fier à soi-même. Revenons à Jérémie. Vous connaissez très bien ce passage. Jérémie 17. Mais nous allons lire un peu plus que ce que nous lisons habituellement dans Jérémie. Jérémie 17. Voilà, c'est cela. Je commence à réaliser que j'ai probablement besoin de nouvelles lunettes. C'est la vie, n'est-ce pas? Jérémie 17, et nous commencerons au verset 5. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, si nous nous fions à l'homme, nous serons maudits. Et qui fait de sa chair son bras, et dont le cœur s'éloigne de l'Éternel. Ce n'est donc pas une bonne chose de se fier aux hommes. Verset 6. Car il sera comme une fournaise dans le désert, il ne verra pas venir le bien. Il habitera les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitée. Ce n'est pas une expérience agréable. Au verset 7, heureux l'homme, à l'opposé de maudit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander conseil ou avis à des hommes. Cela signifie que ces hommes, ces femmes, qui qu'ils soient, doivent également réfléchir et agir en suivant et en faisant confiance au Seigneur, en l'occurrence Dieu, sous la conduite du Christ. Verset 8, car il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, celui qui suit les conseils, qui étend ses racines vers le fleuve, et qui ne craint pas la chaleur quand elle vient, mais dont le feuillage reste vert. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse, et il ne cesse pas de porter du fruit. Des bénédictions. Et cela nous amène au verset que vous entendez citer tout le temps. Verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant, qui peut le connaître? Faire confiance à l'homme ou faire confiance à Dieu? Dieu vous montre le parallèle entre les deux, puis il dit, le cœur est trompeur par-dessus tout. Pourquoi pensez-vous que c'est le verset suivant? Mes frères, parce qu'il est plus facile de faire confiance à l'homme ou à nous-mêmes, à notre propre raison, à notre propre compréhension, parce que c'est ce que nous faisons. Les êtres humains sont conçus ainsi, c'est en nous parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit humain, et la diffusion de Satan nous font penser que nous devons nous débrouiller seuls et trouver la solution par nous-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Pas quand il s'agit de choses spirituelles, car le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Verset 10. Le Seigneur sonde le cœur, ou moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, afin de rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Si nous faisons confiance à l'homme, nous attirons une malédiction. Si nous faisons confiance à nous-mêmes, nous, hommes et femmes, nous attirons une malédiction. Si nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons apporter la stabilité, des fruits et tous les éléments de ce conseil, car notre cœur est trompeur, il est tortueux, insidieux, pollué, c'est ce que signifie ce mot. Ce n'est pas bon. Notre cœur déformera la vérité pour l'adapter à nos objectifs, et généralement, surtout lorsqu'il s'agit de questions spirituelles, de doctrines ou d'enseignements, Satan utilisera la propension naturelle de notre cœur à être corrompu, à être tortueux, pour nous faire confiance en nous-mêmes et penser que nous n'avons pas besoin de conseils. Nous n'avons pas besoin de faire confiance au Seigneur, mais c'est elle, pas ce que votre cœur vous dira. Non. Personne ne quitte l'Église en disant « J'avais juste besoin de suivre Satan ». Vous savez quoi ? J'ai réalisé que je ne faisais pas confiance à Dieu, alors vous savez quoi ? Je dois partir. Non, non, le cœur est trop trompeur pour faire cela. Chaque mauvaise décision que les gens prennent dans leur vie spirituelle, ils pensent que Dieu est derrière. S'ils commettent l'adultère ou s'ils font quelque chose d'évident, non, mais s'ils pensent qu'ils défendent la vérité ou que telle ou telle chose concernant le gouvernement de Dieu est mauvaise, non, le cœur dira toujours que Dieu les guide parce que le cœur est trompeur. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez besoin de conseillers, et nous-mêmes, nous-mêmes qui donnons des conseils, cela ne compte pas. Cela ne compte pas, car allons voir Proverbe 28. Proverbe chapitre 28, juste avant la fin des Proverbes. Proverbe chapitre 28, je vous laisse tourner la page, et je vais boire un verre. Et verset 25. 28. 25. Celui qui a le cœur orgueilleux suscite des querelles. Le Nouveau Testament dit que si l'orgueil est présent, alors il y a des querelles, mais c'est la version de l'Ancien Testament qui continue ici. Mais celui qui se confie en l'Éternel sera rassasié. Le verset 26 le dit encore plus clairement, celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. On ne peut pas être plus clair. N'est-ce pas? Dieu dit que si vous, moi ou n'importe lequel d'entre nous se fie à son propre cœur, il est un insensé. Bien sûr, nous venons de lire, le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant, qui peut le connaître? Donc, si nous nous fions à notre propre cœur, nous disons que nous nous fions à quelque chose qui est désespérément méchant. Et alors, notre propre jugement est pollué par ce cœur pollué. Celui qui se fie à son propre cœur est un insensé. C'est pourquoi il est dangereux de se fier à soi-même, car quelle décision prendriez-vous si vous vous adressiez à quelqu'un? Nous n'appelons pas les gens insensés, mais quelqu'un qui est stupide ou vil, ou quelqu'un qui n'est tout simplement pas très intelligent. Vous n'iriez pas voir cette personne pour lui dire « Je pense acheter ceci ou je pense faire cela. » Et cette personne est, on pourrait dire qu'elle n'a pas d'expérience, qu'elle est insensée, qu'elle a tendance à prendre de mauvaises décisions. Vous n'allez pas voir cette personne pour lui demander conseil, pour qu'elle vous aide dans votre projet. Vous n'allez pas la voir parce que vous savez qu'elle est stupide. Mais mes frères, Dieu dit que c'est exactement ce que nous sommes si nous nous fions à notre cœur, stupide. Le verset continue, « Mais celui qui marche avec sagesse sera délivré. » Nous verrons plus loin ce que signifie marcher avec sagesse. Mais le contraire est de se fier à soi-même, nous sommes insensés, marcher avec sagesse. Ce qui signifie le contraire, ne pas se fier à soi-même, sera délivré. La délivrance vient du fait de recevoir, d'accepter et d'appliquer l'instruction parce que nous ne nous fions pas à nous-mêmes. Nous faisons confiance à quelque chose d'extérieur. La parole de Dieu, le ministère, les frères, peu importe ce que c'est, selon le système de classification de l'importance du problème, c'est ainsi que nous pouvons être délivrés. Chaque fois que nous pensons que nous n'avons pas besoin, et cela, mes frères, vous sauvera la vie, alors ne l'oubliez pas. Chaque fois que vous ou moi pensons à une question spirituelle, doctrinale, liée au fondement de la véritable Église, au baptême, à l'existence de Dieu, à tous ces éléments fondamentaux du christianisme, si vous avez des pensées qui s'écartent de ce qu'enseigne l'Église de Dieu et que vous n'allez pas voir un ministre pour les résoudre, vous êtes un insensé, selon la Bible, car vous faites confiance à votre propre cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Vous devez consulter des conseillers, et cela ne compte pas si vous dites, vous savez quoi, je consulte la Bible, je consulte mon conjoint, et nous pensons tous la même chose. Vous vous fiez à votre cœur, n'est-ce pas? Il faut des conseillers. Si nous sommes mûrs spirituellement, nous comprenons ce que sont nos impulsions humaines et nous comprenons pourquoi nous avons besoin du point de vue d'un tiers extérieur. C'est pourquoi les conseils matrimoniaux sont si importants. Certains couples ne parviennent tout simplement pas à résoudre leurs problèmes, car souvent, lorsque les émotions sont vives, ou plus vives encore chez un couple, il est difficile de raisonner ou d'appliquer la pensée de Dieu à une question, car les deux parties sont très investies émotionnellement. Il faut une personne extérieure, un ministre, pour conseiller les deux et leur dire « Non, vous avez tort, et vous avez tort. Et tu as raison à certains égards, et tu as raison à certains égards. Voici les domaines dans lesquels vous êtes en accord. Voici les domaines dans lesquels vous devez chacun travailler individuellement, et voici les choses sur lesquelles vous devez travailler ensemble. C'est le rôle de cette source extérieure. Passons au Nouveau Testament, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 10. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Verset 11 de la 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, des exemples ou des types, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est nous. Verset 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Mes frères, lorsque nous pensons avoir raison sur un sujet, nous sommes au bord du précipice. Lorsque nous sommes tellement sûrs d'une chose que nous pensons ne pas avoir besoin de conseil à ce sujet, nous sommes au bord de la chute, car si nous pensons ne pas avoir besoin de conseil sur une question sérieuse, c'est que nous sommes lâches quant à la position que nous défendons, car nous ne sommes pas à l'aise avec l'idée de devoir défendre cette position. Si vous avez raison sur un sujet quel qu'il soit, spirituel, doctrinal, personnel, si vous avez raison et que cela est lié, fondé et basé sur la parole de Dieu, vous pouvez défendre cette position bibliquement, et vous seriez ouvert au conseil, car vous savez ce qui en résultera. Des ajustements. Du genre, « Oh, avez-vous pensé à… » « Oh, je n'avais pas pensé à cette idée. » Eh bien, c'est peut-être une meilleure façon de faire. Oh, c'est bien. Merci. Mais lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, nous ne voulons pas de conseils, car nous ne pouvons pas défendre notre position et nous voulons faire ce que nous voulons. Non, je veux cette voiture de sport rouge cerise. Je m'en fiche. Non, je ne suis pas d'accord avec X ou Y. Je pense ceci. Les gens quittent l'église parce qu'ils ne demandent pas conseil. Parce qu'ils ne veulent pas demander conseil, car souvent, ils ont déjà pris leur décision. Ils savent qu'on pourrait les en dissuader. Alors, par lâcheté, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ils prennent leur décision et disent qu'ils restent fidèles à Dieu. Je fais cela depuis assez longtemps et j'ai parlé à suffisamment de personnes au fil des ans, des décennies que j'ai passées ici au siège, et j'ai travaillé avec des frères du monde entier pour pouvoir compter le nombre de fois où quelqu'un allait quitter l'église à cause d'une doctrine ou d'une position particulière. En général, ce n'est pas à cause du péché. Le péché, c'est différent. Le péché personnel dans votre vie, c'est différent. Vous avez besoin d'aide pour vous en sortir. Mais en général, s'il s'agit d'une doctrine, d'une offense ou d'un domaine dans lequel vous devez faire un travail sur vous-même, je peux compter de nombreuses fois où, après m'être assis avec quelqu'un, j'ai réussi à le dissuader de prendre sa décision. Dans un cas, Quelqu'un m'a remis une lettre de démission et m'a dit qu'il quittait l'église. Et je lui ai répondu, parlons-en. Nous nous sommes assis et avons discuté. Et il a retiré sa lettre. Parce que sa position n'était pas défendable au regard de la parole de Dieu. C'était souvent, et c'est généralement le cas, basé sur des sentiments. Je les ai convaincus de changer d'avis. Et je leur ai donné l'occasion de changer et de grandir. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est appliquer le conseil. Alors, la fois suivante, ils ont rédigé une lettre de démission, car ils ont fini par démissionner. Cette personne s'est faufilée dans mon bureau tôt le matin et a déposé la lettre de démission sur mon bureau avant que j'arrive, car elle était lâche et ne voulait pas et ne pouvait pas défendre sa position émotionnelle. Mes frères, ne vous laissez pas prendre au piège. Et ne laissez pas les choses s'accumuler. Parlez-en. Si vous ne comprenez pas quelque chose, et je le dis clairement, et tous les ministres du monde seront d'accord avec moi, jusqu'à quelqu'un qui vient d'être ordonné, jusqu'à Monsieur Pack, vous n'aurez pas d'ennui si vous posez une question, si vous avez une question. Il n'y a rien de mal à poser des questions. La Bible est un livre volumineux et complexe. Si nous ne le pensions pas, nous avons comme pasteur général quelqu'un qui comprend la parole de Dieu mieux que quiconque aujourd'hui, et il vous dira à quel point elle est complexe. Difficile à comprendre. Difficile à assembler. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose dans la parole de Dieu, ou un enseignement, ou une compréhension prophétique, ou une doctrine, peu importe ce que c'est, demandez à votre ministre. Il ne va pas vous couper la tête. Et s'il ne comprend pas, parce que la parole de Dieu est compliquée, il demandera à quelqu'un qui comprend. Il demandera conseil. Parce que c'est comme cela que cela marche. Je l'ai déjà mentionné, mais tous nos ministres sur le terrain ont quelqu'un au siège avec qui ils peuvent parler. Nous appelons cela le contact du ministère sur le terrain. Et c'est la structure. C'est le gouvernement de Dieu et il y a une structure. Ainsi, si un homme sur le terrain a une question sur la politique, la doctrine, la manière de travailler avec quelqu'un, le conseil sur un sujet, il a quelqu'un à qui s'adresser, qui lui donnera de nombreux conseils, et avec qui il pourra discuter. Qu'est-ce que c'est? Comment faites-vous cela? Avez-vous déjà vu cela auparavant? Et puis, il peut revenir vers vous, disons que vous aviez une question, et vous donner le contexte complet de la pensée de Dieu sur un sujet, le script approprié. Tout. Parfois, ils n'en ont pas besoin, mais d'autres fois, oui. Mes frères, si le ministère en a besoin, à combien plus forte raison tout le monde en a-t-il besoin? Nous en avons tous besoin. Il n'y a donc rien de mal à avoir des questions. Ce qui change, c'est l'attitude. Je suis partisan, si je pouvais faire un t-shirt ou un autocollant qui dirait que l'attitude est tout. Parce que c'est l'attitude qui transforme ce qui pourrait être une question en une accusation. Si vous allez voir un ministre et que vous n'êtes pas, vous êtes, eh bien, bla 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 bla, et je pense ceci et cela. D'accord, maintenant vous accusez. Nous savons tous qui est l'accusateur des frères. Si vous allez voir le pasteur et que vous lui dites, je ne comprends pas très bien X, il vous répondra, oh, asseyons-nous et discutons-en. Car notre travail consiste à être les aides de votre joie, à vous aider, tout comme on nous conseille de nous aider à atteindre le royaume de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un pense pouvoir tenir debout, il est au bord d'une falaise et prêt à tomber. Les émotions brouillent votre jugement, c'est certain. Lorsque nous donnons des conseils, cela nous permet de retrouver la clarté d'esprit dont nous avons besoin, car nous pouvons être émotifs. Tous les êtres humains le sont. nous réagissons. Nous pouvons être offensés, quelle que soit la situation. Mais les conseils extérieurs nous stabilisent. Ils nous redonnent cette clarté mentale, cette clarté spirituelle. Voyez les choses ainsi. L'esprit charnel défend sa position, tandis que l'esprit spirituel cherche la réponse correcte, car vous recherchez la vérité avec un esprit spirituel. C'est là le danger de se fier à soi-même. Le point suivant est quelque peu lié, mais nous allons l'approfondir un peu plus. Les émotions ne sont pas déconseillées. Les émotions ne sont pas déconseillées. Les émotions font partie des êtres humains. Le bonheur, la tristesse, la colère, toutes ces choses que vous pouvez retrouver dans la Bible et que vous pouvez voir dans presque tous les cas, la colère, il y a un bon moment pour la ressentir et un mauvais moment pour la ressentir. Nous pouvons ressentir une colère juste, mais nous ne pouvons pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, par exemple. La tristesse, le bonheur, la joie, tous ces éléments font partie de notre condition humaine, que Dieu a créée. Il nous a créés avec des émotions. Il ressent de la tristesse. Il a des émotions. Mais Dieu n'a jamais voulu que ces émotions soient les moteurs de nos décisions, ce qui en ferait nos conseillers. N'oubliez pas que le conseil n'est qu'une question de planification. Donc, si nos émotions dictent un plan, elles deviennent nos conseillers, ce qui est dangereux, très dangereux, car les sentiments sont temporaires. Il y a des moments, quand on a des enfants, où l'on apprend cela, où nos enfants sont capables d'appuyer sur des boutons dont on ignorait l'existence. Je suis généralement quelqu'un de calme, qui prend les choses comme elles viennent, qui ne réagit pas de manière excessive. Mais mon fils a réussi à appuyer sur des boutons qui ont fait naître en moi une petite flamme, et cela fait onomatopée. Vous contrôlez cela. Vous essayez, d'accord, de réagir de manière systématiquement modérée, mais cela ne fonctionne pas toujours. Plus vous êtes parent depuis longtemps, plus vous vous améliorez. Mais cela brûle fort et cela s'éteint vite, parce que c'est comme cela que fonctionnent les émotions. Elles sont intenses, surtout les négatives. Elles sont intenses, puis elles s'estompent généralement rapidement. Elles sont temporaires. Elles changent. De plus, nous prenons les pires décisions lorsque nous sommes émotifs. Lorsque nos émotions guident ou dirigent nos décisions, nous prenons de mauvaises décisions, puis nous les regrettons. Nous devons alors surmonter notre fierté pour revenir en arrière et dire « C'était une mauvaise décision que j'ai prise sous le coup de l'émotion ». Revenons au chapitre 14 du livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 14, verset 12. Proverbes 14, verset 12, il y a une voie. Verset 12, il y a une voie qui semble droite à un homme. Tous ces versets s'alignent de la même manière, n'est-ce pas? La plupart du temps. Voyez-vous le schéma qui se dessine ici? Ne nous fions pas à nous-mêmes. Mais continuons, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Non, conseiller, tu es un insensé. Si la voie qui semble droite à un homme, ce qui signifie que nous ne demandons pas de conseil extérieur, que nous n'avons pas l'avis de Dieu à ce sujet, son issue est la voie de la mort. Verset 13. Même dans le rire, le cœur est triste. Et la fin de cette joie est la tristesse, des hauts et des bas, le bonheur, la tristesse. Le rebelle dans son cœur sera comblé de ses propres voies, et un homme bon devrait être satisfait de lui-même. Les simples croient chaque parole, mais l'homme prudent examine bien ses voies. Verset 16. Le sage craint et s'éloigne du mal, mais l'insensé se met en colère et est confiant. Si quelqu'un est confiant et émotif et sûr d'avoir raison, mes frères, Dieu dit que c'est la voie qui semble droite à l'homme, et que le résultat de cela est la mort. Et dans le contexte de Dieu, dans le contexte de l'Église, dans cette marche chrétienne, cette mort est spirituelle. Cette mort est éternelle si nous perdons l'Esprit de Dieu. La mort physique est triste. Quand on perd des êtres chers, c'est triste, mais la mort physique n'est qu'un moment dans le tableau plus large que Dieu nous fait parcourir, vous et moi. Il y a un moment où vous mourrez, et si vous êtes prêt, vous vous réveillez au millénium et vous êtes Dieu. Si vous n'êtes pas prêt, vous vous réveillez physiquement et vous terminez votre parcours pour arriver aux pointes où vous pouvez être Dieu. Mais si nous faisons les choses qui nous semblent justes et que cela nous guide et nous éloigne de l'Église, c'est la mort spirituelle. Nous devons nous en éloigner. Nous gardons les choses claires et simples. Si nous sommes sages, nous faisons une pause, nous demandons conseil, nous examinons. Le terme que nous utilisons pour former les ministres, nous parlons de différentes choses, et lorsque vous formez un ministre à faire son travail, l'une des choses que nous disons souvent est d'apprendre à réagir de manière systématiquement modérée. Pourquoi? Parce que si vous réagissez immédiatement, vous réagissez émotionnellement. Toute réaction immédiate à une situation, en particulier une situation qui suscite beaucoup d'émotions, si quelqu'un fait quelque chose et que vous pensez. Revenons à l'analogie avec les enfants et ce qu'ils peuvent faire. La plupart de ces réactions sont émotionnelles. Par exemple, je vous ai dit 3000 fois de ne pas faire X. C'est émotionnel. Cela ne résout pas le problème. Mais nous devrions tous apprendre à systématiquement réagir avec modération. Nous devrions être capables de nous arrêter, de dire non, c'est une émotion, d'examiner ce que c'est, la situation, et si cela se justifie, dans de nombreux cas, surtout sur le plan spirituel, de demander conseil. Les émotions ne nous permettent pas de déterminer si nous savons que c'est la bonne voie ou si c'est la voie qui semble bonne. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un, et souvent, nous avons besoin d'une personne extérieure qui examine la situation et nous dise « Non, c'est la bonne solution, pas celle qui semble être la bonne. » Car la différence entre les deux est une question de vie ou de mort. Et ce n'est pas une décision. Si vous aviez un cancer ou une maladie grave, vous ne vous contenteriez pas de suivre les conseils du médecin en disant « D'accord, c'est ce que je vais faire ». Non, vous demanderiez un deuxième avis. Vous demanderiez un conseil supplémentaire. Parce que c'est une décision de vie ou de mort. Plus la décision est importante, plus notre conseil doit être important et approfondi. Seuls des avis extérieurs peuvent nous aider à trancher entre les deux. Passons au premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, un autre récit. Nous allons passer de quelques passages simples à quelques récits. Premier livre de Samuel, chapitre 13. Premier livre de Samuel, chapitre 13. Nous commencerons au verset 8. Chapitre 13. Verset 8. Il attendit 7 jours, selon le délai fixé par Samuel, mais Samuel ne vint pas à Gilgal, et le peuple s'éloigna de lui. Et Saül dit, « Apportez-moi ici un holocauste et des sacrifices de paix. » Et il offrit l'holocauste. Et il arriva, dès qu'il eut fini d'offrir l'holocauste, que Samuel arriva. Et Saül sortit à sa rencontre, pour le saluer. Et alors Samuel dit, « Saül pense qu'il fait ce qui est juste. Rappelez-vous, la voix qui semble droite à un homme. » Et Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Et Saül répondit, « Je voyais que le peuple se dispersait loin de moi, que tu ne venais pas dans les délais fixés et que les Philistins se rassemblaient à Michma. C'est pourquoi j'ai dit, « Les Philistins vont maintenant descendre sur moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Je me suis donc forcé, je me suis forcé, tu vois, Saül, et j'ai offert un holocauste. J'ai fait ce que je pensais être juste. Voici un prophète de Dieu, on pourrait dire un ministre, quelqu'un qui a donné des conseils à Saül et lui a dit, « Voici ce que tu vas faire. Voici comment tu dois le faire. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. » Dans ce cas, il s'agit d'un prophète, donc des paroles de la bouche de Dieu. Et Saül a agi différemment. Il a entendu le conseil, mais il ne l'a pas suivi, car il a fait ce qu'il pensait être juste. Cela lui semblait juste, n'est-ce pas? Et quelle a été la réponse de Samuel au verset 13? Samuel dit à Saül, « Tu as agi sottement, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Car maintenant l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur l'Israël. » À ce moment-là, Saül a perdu le royaume. Imaginez à quoi ressemblerait l'histoire, les récits de la Bible, tous les personnages que vous connaissez, si Saül avait obéi à ce moment-là. Dieu était prêt à vous le donner pour quelque chose qui peut sembler un peu simple, n'est-ce pas? Il suffisait de faire cette seule chose. D'accord, il a fait quelque chose de bien. Il a fait une offrande. Il est allé le faire parce qu'il voulait que Dieu intervienne dans une affaire. Mais il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a donc tout perdu. Mes frères, Dieu nous dit, à vous et à moi, lorsque nous sommes confus, lorsque nous sommes incertains, lorsque nous nous écartons du chemin qui nous a été tracé, d'aller chercher conseil. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais si nous ne le faisons pas, nous pourrions finir comme Saül. Nous pourrions tout perdre parce que nous avons pensé que ce n'était pas nécessaire, parce que nous pensons pouvoir déterminer la volonté de Dieu dans une affaire. C'est dangereux, car souvent, c'est possible. Si vous essayez de savoir comment travailler avec les gens dans votre travail ou respecter le sabbat ou divers autres éléments, vous ne pouvez pas déterminer la volonté de Dieu à ce sujet. Savez-vous pourquoi? C'est la même chose pour moi. Parce qu'il y avait un apôtre qui a vécu pendant des décennies et qui a transmis la vérité à l'Église. Dieu par l'intermédiaire de cet apôtre, M. Armstrong, et qui a établi les fondements de l'Église. Et puis quelqu'un est venu et a dit, « Non, je vais obéir à tout ce qu'il a dit. » Et qu'a fait Dieu? Il a dit, « Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Tu as suivi le chemin qui t'a été montré. » Et Dieu l'a élevé pour qu'il devienne un autre apôtre. Et nous avons reçu tant de compréhension grâce à lui, M. Pack, parce qu'il a fait ce qui était juste. Et qu'a-t-il fait? Il a réécrit la littérature, il a donné des sermons. Nous avons produit des choses afin que vous et moi puissions comprendre la volonté de Dieu. Mes frères, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, moi y compris. Nous ne pouvons pas déterminer la volonté de Dieu par nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons des écrits. C'est pourquoi nous avons des études bibliques, des services du sabbat, des enseignements, afin que nous puissions apprendre la volonté de Dieu. Si vous pensez quelque chose, ou si je pense quelque chose, qui dépasse le cadre de ce que Dieu a enseigné par l'intermédiaire de ses apôtres, en particulier ce que nous avons appris et exposé, vous n'avez pas la volonté de Dieu, et cela pourrait n'être qu'un malentendu. Vous pourriez simplement être confus, mais ne pensez pas que vous avez raison. Ne pensez pas que Dieu vous montre quelque chose que tous ceux qui vous entourent ne voient pas. C'est de l'orgueil, et Dieu ne peut pas travailler avec vous lorsque vous êtes orgueilleux. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu lorsque vous êtes plein d'orgueil, lorsque vous pensez en savoir plus que tous ceux qui vous entourent? Mes frères, demandez conseil lorsque vous êtes confus. Ce sermon n'est pas le fruit du hasard. Vous avez entendu M. Pack faire référence à quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a tiré sur la poignée d'ouverture parce qu'il avait tellement d'opportunités. J'ai travaillé avec lui tout le temps pour demander conseil, pour pouvoir poser des questions. Je suis un fervent partisan de l'ouverture permanente de ma porte. Le nombre de personnes qui frappent à ma porte au cours d'une journée ou d'une semaine normale est incessant. Et il n'y a jamais un moment où j'essaie de ne jamais avoir un moment où je donne l'impression d'être trop occupé pour ne pas accorder d'air attention à la personne qui franchit ma porte. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et cette personne le savait, mais elle n'est pas venue pour demander conseil. Elle ne voulait pas de conseil. Elle voulait faire ce qu'elle avait envie de faire. Et franchement, je pense qu'elle s'est sentie offensée par un problème de longue date qu'elle aurait pu résoudre, ce qui l'a poussée à partir et à emmener deux personnes avec elle, parce qu'elle n'a pas cherché de conseil. Nous courons tous le même danger. Si j'ai des idées qui s'écartent de ce qu'enseigne M. Pack, de la vérité actuelle, du cadre de compréhension que nous avons, et que je ne comprends pas quelque chose, si je ne demande pas conseil, cela peut m'arriver aussi, quel que soit mon poste. Nous sommes tous susceptibles d'être la cible du diable qui veut nous voir échouer. Et nous avons ce cœur désespéré, méchant et corrompu. Nous nous fions à nous-mêmes. Nous construisons ce que nous pensons devoir faire pour nous-mêmes, et nous sommes tellement sûrs de nous-mêmes et de la présence de Dieu dans nos actions. Mais la seule façon de savoir si Dieu est présent, c'est de demander conseil. Et peut-être avez-vous raison. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous comprenez, et vous avez raison. Mais nous ne déterminons pas ce qui est juste par nous-mêmes, car nous sommes prisonniers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous trouverons de bonnes choses, et nous trouverons de mauvaises choses. Et nous avons besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous aider à voir cela. Nous en avons tous besoin. Encore une fois, peu importe que vous soyez une veuve en Alabama, un évangéliste ou quoi que ce soit d'autre entre les deux. Même M. Pack vient régulièrement demander conseil. Je lui parle presque tous les jours. D'autres le font aussi. Parce que ces conseils, même si vous n'êtes qu'une caisse de résonance, aident les gens, nous aident à déterminer, tous ensemble, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et dans ce cas, avec Saul, cela n'a pas fonctionné. Il n'a pas suivi ce qu'il devait faire. Vous pouvez voir les choses ainsi. Vos émotions vous avertissent. Vos émotions ne vous informent pas. Elles vous avertissent. Elles attirent votre attention sur certaines choses, en particulier les négatives, la peur, la colère. Elles vous avertissent. Mais elles ne doivent pas servir de base à une décision. C'était donc le numéro 3. Numéro 4. Dans notre processus décisionnel, nous devons passer de l'impulsion à la perspicacité. De l'impulsion à la perspicacité. Proverbe 16. Proverbe chapitre 16. En réalité, la plus grande différence entre la maturité spirituelle ou émotionnelle et l'immaturité est la capacité à faire une pause, à s'arrêter. Proverbe 16. Cette capacité à s'arrêter vous aidera à prendre beaucoup moins de mauvaises décisions. Quand on s'arrête et qu'on compte jusqu'à 10, c'est une astuce facile à mettre en œuvre dans votre esprit. Je trouve toujours que le plus simple est de compter à rebours à partir de 10, et non jusqu'à 10, car cela permet de désamorcer la situation dans mon esprit. Vous comptez 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Si nécessaire, dites-le à voix haute. Les gens vous regarderont bizarrement, mais tout est bon pour calmer votre esprit. Proverbe 16, Verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme puissant. Vous pouvez vaincre le puissant, car vous prendrez de meilleures décisions. Peu importe la force et le pouvoir d'une personne, vous pouvez la vaincre. Vous êtes meilleur qu'elle si vous êtes lent à la colère, car dans la colère, vous avez entendu des gens dire qu'ils voyaient rouge. Ils ne pensent pas rationnellement. Mais si vous êtes lent à la colère, vous ne perdez pas votre capacité à être rationnel. Et le verset continue, « Et celui qui maîtrise son esprit est meilleur », on pourrait dire que c'est une comparaison, « est meilleur que celui qui s'empare d'une ville ». Ainsi, quelqu'un d'assez fort pour conquérir une ville n'est pas aussi bon, meilleur ou efficace que quelqu'un qui peut maîtriser son esprit, qui peut compter jusqu'à 10 dans sa tête, faire une pause, réfléchir, être lent à la colère, se contrôler dans une situation. Sinon, vous agissez sous l'impulsion du moment. Nous agissons sous le coup de l'émotion. Car c'est là la base d'une mauvaise prise de décision, l'émotion ou l'impulsion. Le nombre de meurtres qui se produisent parce que quelqu'un réagit, ou les accidents de la route qui se produisent parce que quelqu'un réagit. Lorsque nous nous contrôlons, que nous sommes lents à nous mettre en colère, ces choses ne se produisent pas. Ces regrets, ces mauvaises décisions ne se produisent pas. Lorsque nous sommes émotionnellement immatures, nous essayons d'accomplir des tâches, mais nous ne contrôlons pas ce que nous faisons. Vous conduisez, vous essayez de... Non, vous ne réfléchissez pas. Et la capacité de faire une pause vous permet d'obtenir des conseils, car si vous ou moi réagissons de manière impulsive ou émotionnelle, nous ne cherchons pas de conseils parce que nous n'avons pas le temps de le faire. Nous avons simplement réagi de manière impulsive. Mais si nous avons la capacité de faire une pause et de dire « Non, ce n'est pas une bonne décision » ou « Je ne sais pas quelle est la bonne décision », vous savez quoi? Je veux en parler à quelqu'un. Et selon le sujet, vous pouvez en parler à votre conjoint, à votre pasteur, à vos pairs, ou si c'est au travail, à vos collègues. Cela s'applique à tous les aspects de la vie, pas seulement aux grandes questions spirituelles. La capacité de faire une pause vous rendra plus performant dans votre travail, car vous réfléchirez. Cette personne qui vous agace au travail, si vous ne la laissez pas vous provoquer et que vous faites une pause, vous la gérerez mieux, ou vous irez voir votre patron et lui direz « J'ai du mal à gérer cette personne. Que pensez-vous que je devrais faire ?» Car vous obtenez des conseils. Ou bien vous allez voir votre pasteur et vous lui dites « Au travail, j'ai du mal à m'entendre avec cette personne. Comment puis-je m'améliorer ?» Parce que vous avez pris le temps de réfléchir. Lorsque nous faisons cela, cela nous permet de faire une énorme différence dans ce que nous faisons. Passons à Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 19. Jacques, verset 19, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Prompt à écouter, toujours prêt à écouter. Cela ne fait jamais de mal d'écouter, je suppose, à moins que quelqu'un ne sème l'hérésie ou la division. Mais alors, vous sauriez aussi quoi faire. Parce que vous ne réagissez pas. Vous restez calme. Être prompt à écouter, lent à parler, réfléchir, faire une pause, ne pas réagir émotionnellement, ne pas être impulsif et être lent à la colère. Vous prendrez tellement plus de décisions efficaces et réfléchies en appliquant simplement ces trois phrases dans votre vie. Mais c'est logique, car la colère de l'homme, lorsque nous nous mettons en colère, que les gens voient rouge ou sont simplement en colère en général, ne produit pas la justice de Dieu. Cela ne fonctionne tout simplement pas lorsque nous agissons ainsi. Je peux penser à tant d'exemples dans l'Ancien Testament. Je pourrais citer l'exemple de David lorsqu'il a coupé le pan de la robe de Saül et qu'il s'est immédiatement dit, « Oh, j'ai pris une mauvaise décision », car il savait ce qu'il était censé faire. Il a été impulsif. Et ceux qui l'entouraient lui ont donné de mauvais conseils. Mais il savait, puis il s'est repenti, a voulu faire ce qui était juste et a compris. D'accord. C'est donc le numéro 4. Nous ne pouvons pas agir sous l'impulsion du moment. Nous devons faire preuve de perspicacité. Numéro 5. Quand devons-nous demander conseil? Nous avons abordé ce sujet tout au long du message, mais quand devons-nous demander conseil? Allons au chapitre 20 du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes regorge de versets sur les conseils. Il parle à lui seul de la multitude de conseillers et de tout ce qui en découle. Mais au chapitre 20, verset 18, il est écrit « Tout projet est établi par la consultation ». D'accord, quand dois-je demander conseil? Tout projet est établi par la consultation. Ainsi, tout projet, tout plan ou toute préparation est établi par la consultation. Cela ne signifie pas que vous allez demander à votre pasteur quelle couleur de voiture vous devriez acheter, ou si vous devriez acheter ce nouveau costume. Non, mais si vous êtes marié, j'imagine que vous dites à votre femme, « Chérie, ce costume me va bien. C'est une bonne couleur. Que penses-tu de cette cravate ? Parce que vous travaillez ensemble, et mesdames, vous ferez la même chose avec votre mari, ou si vous vous inquiétez pour votre alimentation, votre régime ou votre activité physique, vous n'irez pas demander conseil à votre enfant sur la meilleure façon de faire de l'exercice. Vous allez soit vous renseigner par vous-même, soit parler à un expert, car c'est le but de toute décision. Le verset continue, et avec de bons conseils, faites la guerre. Vous avez besoin de ces conseils. Nous avons besoin de ces conseils pour obtenir des informations fiables afin de prendre toutes les décisions de notre vie. Certaines sont faciles. Certaines sont routinières. Je n'ai pas demandé conseil aujourd'hui pour savoir si je devais me brosser les dents ce matin. C'est une décision que j'ai prise. Je n'ai pas demandé conseil sur ce que j'allais prendre pour le petit déjeuner. J'ai demandé conseil sur ce que mon fils allait prendre pour le petit déjeuner. C'est une situation qui existe depuis longtemps dans notre maison. Je me lève tôt. Je prépare le petit déjeuner pour nous. Et ma femme m'envoie généralement un email. C'est à cause de l'informatique, bien sûr. Je reçois un email qui m'indique ce qu'est on va manger au petit déjeuner. Et quand cet email n'arrive pas, je me dis, j'ai besoin de conseils. Ou alors, je trouve généralement quelque chose. Je ne suis pas si mauvais en cuisine. Mais je demande conseil. Je veux cet avis. Je veux ce conseil. Je veux cette personne qui est plus experte que moi dans ce domaine, la cuisine, la nutrition, l'alimentation, ma femme. Je veux que cet expert en comptabilité m'aide à remplir ma déclaration d'impôt. Je ne vais pas aller voir mon pasteur pour lui poser une question sur les impôts. Je vais aller voir le comptable qui est un expert. Si je fais réparer ma voiture, je ne vais pas aller voir mon copain qui travaille chez Target pour lui demander conseil sur la vidange d'huile, car il ne connaît rien aux voitures. Je vais voir le mécanicien qui est un expert dans ce domaine. De la même manière, lorsque j'ai des questions spirituelles, je vais voir l'expert, mon pasteur, car tout projet est établi par la consultation. Puisque nous sommes ici, allons au chapitre 3 du livre des Proverbes. Revenez quelques pages en arrière. Proverbes, chapitre 3. Rappelez-vous quand demander conseil. Proverbes, chapitre 3, Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Mes frères, si nous pensons être des experts spirituels dans les domaines de notre propre vie, nous sommes sages à nos propres yeux. Répétez cela. Si nous pensons être des experts dans les domaines spirituels de notre vie, nous sommes des experts dans notre propre vie. Il y a une raison pour laquelle nous imposons les mains à un homme. Nous demandons à Dieu de lui donner du discernement, de le mettre dans une fonction, parce que Dieu le donne. Il aide cet homme à trouver des solutions. C'est quelque chose qu'on m'a dit plus tôt, puis j'ai eu un pasteur, cela s'est produit, en rendant visite et en allant dans des maisons. Vous allez parfois rendre visite à quelqu'un, vous vous asseyez et vous discutez avec lui. Il vous pose une question. Et puis vous répondez quelque chose, et vous vous dites dans votre tête, tout en réagissant de manière systématiquement modérée, « Mais d'où cela vient-il ?» C'était une si bonne réponse. Plusieurs fois, après une visite avec ma femme, nous sommes retournés à la voiture et je lui ai dit, « Ginger, note cela. Je veux m'en servir à l'avenir. » C'était génial, parce que Dieu m'a inspiré. Parce que j'avais reçu l'imposition des mains, demandé le discernement, demandé la connaissance et fait confiance à Dieu pour qu'il parle à travers moi. C'est pourquoi nous disons aux hommes qui préparent des sermons courts de ne pas avoir trop de matière, car Dieu vous inspirera pour dire des choses qui ne sont pas dans vos notes. Cela s'est produit plusieurs fois aujourd'hui dans ce message, où des choses que je n'avais pas prévues sont sorties, car c'est ce que Dieu fera à travers son ministère. Ce sont eux les experts, car Dieu les a désignés comme tels. Et ils n'ont même pas la réponse à toutes les questions. Rappelez-vous ce que j'ai dit, retournez en arrière et trouvez la bonne réponse. Mais faire confiance à Dieu, c'est lui faire confiance pour agir à travers son gouvernement. Car vous ne pouvez pas, à part la Bible, qui, je le répète, est un conseiller. Vous ne pouvez pas obtenir d'avis d'experts sur des questions spirituelles, sauf à travers le ministère. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous faisons la même chose. Lorsque nous avons besoin de conseils, nous les demandons. Car il y a des choses auxquelles je peux répondre, et d'autres auxquelles je ne peux pas répondre. Et il en va de même pour votre pasteur. Mais c'est lorsque nous, en tant que ministère ou membre laïque, disons, « Non, je n'ai jamais besoin de conseils, je suis l'expert, je suis sage à mes propres yeux », que le ministère ou les membres laïques commettent des erreurs fatales. Parce que nous négligeons les conseils. C'est finalement ce qui se passe lorsque nous pensons savoir de quoi nous parlons. Rappelez-vous, lorsque nous pensons être debout, nous sommes au bord de la chute. Numéro 6. Où est auprès de qui chercher conseil? Où est auprès de qui chercher conseil, car tous les conseils ne sont pas bons. Il y a des conseils qui sont enracinés dans la vérité de Dieu, et des conseils qui proviennent du raisonnement humain. Nous nous concentrons ici sur les questions spirituelles, et non sur vos questions de comptabilité fiscale ou sur la nécessité de remplacer votre carburateur. Je ne sais pas si les voitures ont encore des carburateurs. Mais pour cela, vous vous adressez à des experts dans ces domaines. Nous parlons ici de questions spirituelles. Psaume 1. Le premier psaume que nous avons entendu récemment. Vous le verrez sous un angle légèrement différent. Psaume 1, nous commencerons au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, c'est essentiel, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, si quelqu'un est moqueur, si quelqu'un pêche, si quelqu'un est méchant, Nous nous en éloignons. Nous ne marchons pas avec eux. Nous sommes bénis si nous ne le faisons pas. Mais il trouve son plaisir dans la loi de Dieu, et il médite sa loi jour et nuit. Il serait comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Qui donne son fruit en saison, dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait prospère. Tout comme nous l'avons lu précédemment. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous prospérons, comme cet arbre. Nous sommes bénis lorsque nous ne nous tenons pas en compagnie des pécheurs, des impies, des moqueurs. Nous comprenons maintenant la bénédiction à un niveau et dans une ampleur que nous ne connaissions pas auparavant. Chaque fois que quelqu'un utilise la psychologie, le raisonnement humain ou une autre méthode issue de la culture populaire pour expliquer des questions spirituelles, il applique le raisonnement humain. Peu importe à quel point cela est réfléchi et efficace. Non, si cela n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, ce n'est pas spirituel. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas extrapoler à partir de la parole de Dieu. Bien sûr, le ministère le fait tout le temps, et les frères aussi. Il n'y a pas dans la Bible de verset sur la manière de traiter avec vos collègues et votre travail de comptable ou de plombier. Non, vous extrapolez en vous basant sur les principes de la parole de Dieu, ce que nous faisons lorsque nous expliquons. Aujourd'hui, j'extrapole à partir de nombreux versets de la Bible que nous examinons. Mais cela doit être encadré par la vérité, la loi de Dieu, qui en est le fondement. C'est de là que vient la stabilité. C'est là que nous avons une bonne base. Souvent, si un conseil vient d'un endroit émotionnel, pratique ou confortable, nous devrions avoir des signaux d'alarme spirituels qui retentissent partout, car ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Si ce conseil vient d'un endroit d'accusation, ou s'il est accusateur envers des personnes, des lieux ou le gouvernement de Dieu, si ce conseil vient de grief ou d'offense, ce n'est pas un conseil divin. Il n'est pas enraciné dans la vérité de Dieu, dans l'Église de Dieu, dans son gouvernement. Il n'est pas enraciné dans sa parole. Donc, si le conseil de quelqu'un est émotionnel, passionné peut être différent, mais émotionnel, alors supposez qu'il n'est pas divin. Et à ce moment-là, il devient vraiment dangereux. Passons au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Silence, dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux, lisons quelques versets, nous allons les repérer ici. Chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, verset 7. Le verset 7 dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. » Frères et sœurs, c'est le ministère, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne vous ai pas apporté des considérations psychologiques sur le conseil, ni des références à la culture pop sur le conseil, ni de jolies petites idées. Non, je vous ai apporté la parole de Dieu, ce que dit la Bible à ce sujet. Je vous ai transmis la parole de Dieu. Considérez donc la fin de ma conversation, ce dont nous avons discuté. Un sermon peut conseiller tout comme un entretien individuel. Si vous avez des doutes ou des questions, parlez-en à votre pasteur. Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous. Verset 17, passez au verset 17, obéissez à ceux qui ont autorité sur vous, et soumettez-vous à eux. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous adressez pas à eux. Pourquoi ? Car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin de le faire avec joie, et non avec tristesse, ce qui ne vous serait d'aucun profit. En tant que ministre de Jésus-Christ, et nous enseignons cela, et je sais que les hommes le pensent aussi, ainsi que les épouses avec lesquelles ils travaillent, Nous comprenons que nous sommes tenus à un niveau plus élevé. Notre travail consiste à être les aides de votre joie, à vous aider à atteindre le royaume de Dieu, à veiller sur vos âmes. Nous ne pouvons pas vous aider dans les domaines où nous ne savons pas que vous avez besoin d'aide. Il n'existe pas de ministre, ou vous ne devriez jamais penser cela en tant que membre laïque, il est trop occupé. Je ne voulais pas lui en parler. C'est une excuse commode, et parfois sincère, mais aucun ministre dans l'Église de Dieu n'est jamais trop occupé pour vous aider. Aucun. Ne laissez pas cela être une excuse. Soumettez-vous. Aidez-les à veiller sur vos âmes. Laissez-les vous apporter la pensée de Dieu. Laissez-les vous conseiller. Laissez-les répondre à vos questions. Laissez-vous rapprocher d'eux, de la personne qui vous aide à avancer vers le royaume de Dieu. Et parfois, le ministère pourrait vous dire, « C'est bien, voici quelques conseils, mais c'est à vous de prendre la décision. » Parce que vous devez aussi prendre des décisions. Nous ne gérons pas votre vie dans les moindres détails. Ce n'est pas ce que signifie être ministre. Non, nous devons être, encore une fois, les aides de votre joie, ceux qui veillent sur vos âmes, vos vies. Le type de voiture que vous achetez ne détermine pas votre vie spirituelle, éternelle. La couleur de votre jean n'aura aucune incidence sur votre vie éternelle. Nous parlons de questions spirituelles. C'est dans ce domaine que nous essayons de vous aider. Chaque fois que vous demandez conseil en dehors du gouvernement de Dieu sur des questions spirituelles importantes, vous prenez votre vie en main, tout simplement. Même s'il s'agit d'un autre frère, s'il s'agit d'une question importante. Car il ne dispose pas de ce que le ministère reçoit, le discernement, la compréhension, la connaissance et toutes les choses que Dieu accorde à son ministère lorsqu'il est ordonné. Ils peuvent être utiles. Et mes frères, si quelqu'un vient vous voir pour une question spirituelle importante, peu importe que ce soit votre mari, votre père, votre ami, peu importe qui c'est. Vous devez le prendre par la main et lui dire, « Allons parler au ministre. » Parce que c'est ce que vous faites pour sauver sa vie. Ce n'est pas parce que vous le dénoncez ou que vous le trahissez. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la voix de Dieu et l'Église de Dieu. Non, vous vous souciez de sa vie spirituelle. Et vous savez, cela dépasse mes compétences. J'ai besoin d'aide. Et je vais m'assurer que cette personne l'obtienne. Eh bien, en fin de compte, pourraient-ils encore prendre la même décision? Peuvent-ils ignorer les conseils qu'ils reçoivent? Ne prendront-ils pas le pasteur au sérieux? Oui, toutes ces choses peuvent arriver. Chacun est responsable de ses propres actes. Mais votre responsabilité est de vous assurer qu'ils puissent rencontrer le pasteur afin qu'il puisse les aider. Parce que nous n'essayons pas de faire du mal aux gens. Nous essayons de les aider. Il est essentiel que nous puissions les atteindre pour pouvoir le faire. Continuons. Numéro 7. Il faut de l'humilité pour appliquer un conseil. On pourrait même aller plus loin et dire qu'il faut de l'humilité pour recevoir et appliquer un conseil. Proverbe 15. Alors que nous arrivons à la fin. Proverbe chapitre 15. Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui sont remplis d'orgueil. Lorsque nous pensons avoir tout compris, nous sommes orgueilleux. C'est aussi simple que cela. Cela nous sépare de Dieu. Le moment ultime où nous ne pouvons pas obtenir les conseils de Dieu sur une question, c'est lorsque nous sommes remplis d'orgueil, car cela nous sépare de Dieu. Nous ne comprendrons jamais sa pensée. Mais il faut de l'humilité pour recevoir et appliquer les conseils. Proverbe, chapitre 15, verset 31. Proverbe, chapitre 15, verset 31. L'oreille qui écoute la réprimande de la vie demeure parmi les sages. Si vous êtes réprimandé, si vous voulez, Dieu, par son ministère, vous réprimande, vous corrige, vous avertit, vous encourage, vous exhorte, vous demeurez parmi les sages. Celui qui refuse l'instruction méprise son âme, sa vie, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Parce que vous avez acquis une connaissance que vous n'aviez pas auparavant. Verset 33. La crainte de l'Éternel est l'instruction de la sagesse, et avant l'honneur. Vous pouvez vous demander, quel est l'honneur ultime? Être dans le royaume de Dieu. Faire partie de la famille de Dieu. Naître de nouveau dans la famille de Dieu et son gouvernement. Et avant l'honneur, c'est l'humilité. Nous ne pouvons pas faire toutes ces choses. Écouter les conseils, recevoir la réprimande, la correction, l'exhortation. Toutes ces choses. Nous ne pouvons pas les entendre. Nous ne pouvons pas les rassembler, les intégrer et les appliquer si nous ne sommes pas humbles. Passons à la première épître de Pierre, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5. Silence, quelques versets ici. J'ai fait allusion à ce passage, mais nous allons le lire directement. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Première épître de Pierre, 5, 5. De même, vous les jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, soyez tous soumis les uns aux autres, regardez ceux qui sont plus âgés que vous, ou un ancien de l'aile, comme un ministre. Soyez tous soumis les uns aux autres et revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Lorsque nous sommes humbles, nous pouvons commettre des erreurs. Et Dieu dit, « Je vais simplement vous accorder ma grâce. » Lorsque nous sommes orgueilleux, Dieu dit, « Je vais vous résister. » Alors, de quel côté voulons-nous être ? Voulons-nous recevoir la grâce de Dieu ou la résistance de Dieu ? C'est la différence entre l'orgueil et l'humilité. C'est pourquoi, au verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun. Mes frères, si nous revêtons l'humilité, si nous prêtons l'oreille aux sages, aux anciens, tant en âge qu'en ministère, nous obtiendrons la compréhension. Nous recevrons des instructions. Nous accepterons les reproches. Nous accepterons les corrections. Nous pourrons devenir sages. La sagesse vient du gouvernement de Dieu et de la manière dont il nous enseigne à travers sa parole. Recevoir et appliquer des conseils est un acte d'humilité et un acte de soumission à Dieu. Cela transforme ce qui est un conseil, ce que l'on peut appeler un conseil, en sagesse. Si vous faites preuve d'orgueil, cela se transforme en offense. Si nous sommes pleins d'orgueil et que nous sommes contraints de donner des conseils, nous partons offensés. Comment cette personne ose-t-elle dire cela à mon sujet? Comment ose-t-elle faire cela? Comment ose-t-elle? Mais si nous y allons avec humilité, oh, c'est très différent, car nous repartons alors informés et avec plus de sagesse qu'au moment où nous nous sommes assis. Et si nous faisons toutes ces choses, alors il y a des fruits, mes frères. Il y a des fruits à cela. Regardons Proverbe 2 pour conclure. Proverbe chapitre 2. C'est le numéro 8. Le fruit du conseil. Vous êtes en train de tourner les pages, je vais donc vous laisser le faire, mais je vais le répéter. Le fruit du conseil est la sagesse. La paix et la stabilité. Vous avez donc le chapitre 2 du livre des Proverbes, commencé au verset 6. Je vais le répéter encore une fois. Le fruit du conseil est la sagesse, la paix et la stabilité. Verset 6 du chapitre 2 du livre des Proverbes. Car le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Il réserve la sagesse aux hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il garde les sentiers du jugement, et il préserve la voie de ses saints. Alors tu comprendras la justice, le jugement et l'équité, oui, tous les bons chemins. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, parce que nous obtenons la sagesse grâce au conseil, nous venons de le lire, et la connaissance sera agréable à ton âme. La discrétion te préservera, et l'intelligence te gardera. Mes frères, Dieu nous a créés et nous a faits pour être des êtres qui marchent dans cette voie chrétienne, et non pas seuls. Nous ne sommes pas censés le faire par nos propres moyens. Nous devons nous demander chaque jour, avec quelle facilité est-ce que je reçois des conseils? Avec quelle rapidité est-ce que je les recherche? Lorsque nous les recherchons, le faisons-nous avec un esprit ouvert, en désirant la sagesse de Dieu, en désirant la compréhension de Dieu, en désirant ce ministre, parce que nous parlons de questions spirituelles, en désirant qu'ils apportent la pensée de Dieu, la volonté de Dieu à une question pour nous aider, en comprenant que vous et moi ne sommes pas suffisants par nous-mêmes. Cédons-nous ensuite à ce conseil, sachant que c'est la volonté de Dieu, que Dieu nous conduit et nous guide à travers son gouvernement. Et enfin, appliquons-nous ce conseil dans notre vie afin que vous et moi puissions grandir et devenir des conseillers dans le royaume de Dieu. Engageons-nous donc chaque jour à rechercher rapidement des conseils, à les recevoir humblement et à les appliquer fidèlement lorsque l'occasion se présente. Car si nous le faisons, si nous réfléchissons à la manière dont le gouvernement de Dieu fonctionne, à la manière dont le gouvernement même de Dieu fonctionne dans ce domaine, mes frères, vous deviendrez très bientôt des conseillères éternelles pour des milliards de personnes.